9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est heureux de vous retrouver ce matin, ce vendredi 31 mai, et donc à quasiment aller un week-end de la fin du Ramadan. Mais qu'est-ce que je raconte mon cher Philippe, je mélange tout, il n'est pas question de parler de Ramadan ce matin, cette émission est exclusivement consacrée au droit. Ce n'est pas tant la faim qui me fait dire n'importe quoi, mais plutôt la fatigue. Bah oui, tu te couches à pas d'heure, tu te lèves très tôt, depuis un mois, c'est pas un bon mode de vie. Je crains même que la fatigue puisse favoriser la chute des cheveux. Enfin, l'essentiel, c'est que je ne sois pas concerné par ces problèmes capillaires. Alors, aujourd'hui, mon cher Philippe, nous allons faire une émission spéciale divorce, car cette semaine, je me suis rendu compte que beaucoup d'auditeurs et surtout d'auditrices ont interrogé l'imam Abdelali Mamoun sur leurs problèmes de couple. Et mon mari me trompe, et pourquoi, et qu'est-ce que je dois faire? Alors, il est certain qu'on peut répondre aisément à ces questions. Mon mari me trompe, réponse, c'est qu'il a probablement de bonnes raisons. Et pourquoi? Peut-être que tu devrais poser cette question en te postant devant ton miroir et tu verras, la réponse sera évidente. Tiens, un indice entre le jour où tu t'es marié, femme, et le jour où tu as découvert que ton mari te trompait, combien de kilos as-tu pris et que dois-je faire? Je vais te donner les coordonnées de labo pour voir si on peut te sauver, femme. Bon, il est certain que l'imam va plutôt te suggérer de faire preuve de patience, de nahal shaitan, il faut dialoguer avec monsieur, pas se précipiter, peser le pour et le contre. Tiens, je me questionne d'ailleurs, on n'a jamais eu d'appel d'un homme pour dire que sa femme l'avait trompé et qu'il voulait savoir quelle était la position à adopter. Non, en règle générale, si c'est madame qui a trompé monsieur, il n'y aura jamais de circonstances atténuantes et surtout pas de pardon de la part de monsieur. Elle sera mise au banc de la société, rejetée par la famille, montrée du doigt. Par contre, si c'est monsieur qui est à l'origine de ce coup de canif dans le contrat de mariage, madame doit faire preuve de compréhension et surtout accorder son pardon. Mais je dois reconnaître qu'il y a eu une véritable évolution, pour pas dire révolution en la matière. Dans les générations précédentes, les femmes se sont sacrifiées, ne demandaient jamais le divorce, quel que soit le comportement de monsieur. Il pouvait même avoir des enfants avec une autre femme. L'épouse légitime encaissait. Désormais, la femme peut être tabassé, c'est terminé. On ne peut plus frapper madame, on ne peut plus la tromper et c'est tant mieux. D'ailleurs, à tel point qu'il arrive parfois que certaines femmes viennent consulter l'avocat pour des motifs futiles. Il n'y a pas si longtemps que ça, une femme est venue me consulter demandant le divorce au motif que monsieur ne faisait rien à la maison, pas le ménage. Il faisait pas la vaisselle. Alors, je l'ai invité à acheter un lave-vaisselle. Elle m'a répondu quoi? Mais on en a déjà un à la maison. Monsieur ne l'utilise jamais. Oh non, je lui ai expliqué que c'était pas un motif suffisant quand même pour demander le divorce. Vous avez vu, mon cher Philippe, on passe d'un extrême à un autre. Allez, à vous la parole. Posez vos questions. 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon. Beurre FM, c'est tout droit. C'est parti.
Eh oui, maître Serran. Alors, on va parler du divorce, mais sous l'angle juridique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. On a même été surpris par le nombre de questions qu'on a eues concernant le divorce cette semaine, avec des cas qui étaient même très très lourds, maître Serran.
Des cas lourds de violence établie, avérée. Donc c'est vrai que ça méritait peut-être de refaire un petit point sur la procédure, les procédures de divorce.
Bien. Et surtout, on va s'intéresser aux enfants. Alors c'est vrai que quand on en arrive là, on peut avoir l'envie de se venger, mais il faut quand même penser à l'après. Quels sont les conseils qu'on peut dire, Maître Serran, quand on sent qu'on va divorcer et qu'il n'y a pas d'autre choix que d'en arriver là?
Alors, c'est vrai que en qualité d'avocat, en règle générale, quand on est consulté la toute première fois, alors il y a beaucoup de rancœur, les gens sont fâchés, sont remontés, sont même parfois haineux, donc on essaie, en tout cas les avocats essaient quand même de tempérer. Faut pas avoir l'idée non plus de l'avocat qui soufflerait sur les braises pour faire en sorte que on essaie de tempérer, et en particulier quand il y a des enfants. Et le rôle de l'avocat, encore une fois, étant de faire comprendre à notre client ou potentiel client qu'on peut, en qualité d'adulte, avoir des atomes crochus avec celui ou celle qui fut votre moitié. Mais quand on a des enfants, on tente autant que faire se peut, de mettre ça de côté et de raisonner dans l'intérêt des enfants. Je crois que tous ceux qui sont parents peuvent le comprendre. Les enfants sont des éponges. Et quand on est une éponge, par définition, tout ce qui se passe à la maison, cette mauvaise ambiance et parfois même ces violences devant les enfants, c'est évidemment à proscrire. Donc le raisonnement, quand vous êtes dans le cadre d'une procédure de divorce, c'est vraiment de dissocier votre relation entre vous et les enfants, la relation entre votre moitié et les enfants et la relation que vous pouvez avoir avec l'autre qui peut être conflictuelle. Mais dans la mesure où nous sommes adultes, ce ne sont pas aux enfants de s'adapter à la situation de papa et maman, mais c'est plutôt l'inverse.
Même si parfois, certains sont tentés d'instrumentaliser les enfants, d'ailleurs.
Mais c'est...
Avec
c'est,
un chantage affectif.
Bien sûr. Le raisonnement, c'est ça. C'est que, et en particulier, quand votre moitié est entre guillemets un peu insensible au coup que vous pouvez donner, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On va tenter d'instrumentaliser les enfants, on va tenter de les utiliser, on va tenter de les prendre, pardon pour le terme qui peut sembler excessif, mais parfois c'est le cas, de les prendre en otage.
En otage, ouais.
Et c'est ce qu'il y a de pire en la matière. Il nous arrive très souvent de rappeler à nos clients qu'on est en train de parler de leurs propres enfants. C'est-à-dire que quand on me dit, tiens, je vais faire ça parce que je sais que ça embête madame, ça embête monsieur, peu importe, on leur rappelle qu'ils sont en train de nous parler de leurs enfants et que si on utilise les enfants pour faire souffrir madame ou pour faire souffrir monsieur, on fait d'abord souffrir ses propres enfants. Donc c'est vrai que ça peut sembler totalement surréaliste et incohérent, mais malheureusement, on le voit très souvent. Il nous arrive de reprendre un peu nos clients, il nous arrive même parfois de refuser de les suivre parce qu'on sait que c'est pas dans l'intérêt de ces pauvres enfants. Bon, avec un petit peu d'intelligence et de persuasion, les intéressés finissent par comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et je le redis encore une fois, en particulier dans l'intérêt des enfants, d'essayer de tempérer. Alors évidemment, un divorce, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais on le rappelle parfois de se remémorer quand, pourquoi et comment ils ont rencontré l'autre, ils se sont quand même aimés un moment, donc c'est terrible de faire ça, mais on est obligé de leur rappeler des règles qui sont des règles basiques en la matière.
Mmh. Même si on l'a vu cette semaine, ce qui est surprenant, c'est que des femmes qui étaient victimes de violences conjugales ne pensaient pas à se placer sous la protection de la loi.
Non, mais ça c'est terrible. Encore une fois, il y a aussi le fait de pas vouloir ébruiter la chose. On veut pas que le ou les parents s'en mêlent. On veut pas que les frères et sœurs viennent se mêler de votre vie. Mais vous savez, on a parfois des histoires qui sont terribles quand vous avez des femmes. Alors évidemment, il y a aussi des hommes qui peuvent être concernés par ce que je dis. Mais dans la grande majorité des cas, de manière très objective, ce sont les femmes qui sont concernées. Mais quand vous avez des femmes qui viennent vous voir, qui vous racontent leur histoire et qui vous disent que c'est comme ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'au bout d'un moment, elles en ont plus que marre, on a, mais sincèrement, même en qualité d'avocat, on a du mal à comprendre en disant, mais c'est, encore une fois, on n'a qu'une vie, donc est-ce qu'une vie, quand on est marié, est-ce que ce doit être forcément une vie de souffrance? Et je ne parle pas d'un mari qui sera en train de bouder ou autre, je parle de vraie violence, et on a beaucoup de femmes qui ont du mal à passer le cap, parfois pour des considérations strictement financières. C'est-à-dire que ici, il n'y a que monsieur qui travaille et madame ne travaille pas. Évidemment, on se pose la question de savoir, après le divorce, comment ça va se passer. Et parfois, encore une fois, c'est la famille qui fait que c'est complètement tabou. On ne peut pas aller expliquer à ses parents, à ses frères et sœurs que ça va mal au sein du couple et qu'on envisagerait une procédure de divorce. C'est ce que je disais en introduction de manière évidemment caricaturale, mais vous avez tout le temps cette expression Al-Shaitan, faut supporter, c'est pas grave, ça va passer. Oui, alors ça peut passer, sauf que quand ça dure 5 ans, 10 ans, on se dit que le temps est peut-être un peu long. Mais encore une fois, c'est très compliqué, mais en tout cas, les nouvelles générations, on peut pas les y reprendre. Hein. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où monsieur n'a pas eu le comportement adéquate, et ben cette nouvelle génération n'hésite pas, et c'est tant mieux, n'hésite pas donc à diligenter et engager des procédures de divorce. On peut plus supporter aujourd'hui ce qui était supporté ou supportable a priori par maman ou par les grands-parents, c'est plus possible.
Quelle est la forme de divorce qui fait le moins de dégâts et qui est la plus, on va dire, la plus adaptée à la sauvegarde des liens avec les enfants?
Alors, idéalement, ce serait une procédure par consentement mutuel. C'est-à-dire que vous arrivez devant... alors, si vous n'avez pas d'enfant, ça se passe devant un notaire. Et puis, vous allez indiquer au notaire, voilà, on aimerait que ça se passe de telle manière. Et à partir du moment où il y a un équilibre entre les droits de monsieur et de madame, vous êtes divorcé sans difficulté et sans problème. Avec un problème qui concerne, entre guillemets, les personnes de nationalité étrangère, il faut savoir que cette procédure de divorce, qui est une bonne procédure, est une procédure, en particulier quand on n'a pas d'enfants, est une procédure où vous serez divorcé sur le territoire français, mais si vous êtes de double nationalité, si vous êtes de nationalité étrangère, voilà, vous êtes algérien, marocain, tunisien, au pays, c'est un divorce donc que vous ne pourrez pas faire transcrire. Donc vous serez divorcé sur le territoire français, mais vous ne serez pas divorcé au pays. Donc faut faire attention à ça. Après, on a le divorce sur demande acceptée, c'est une sorte de procédure bâtarde entre le divorce par consentement mutuel et le divorce pour faute. Vous arrivez devant le magistrat en disant, sur le principe, nous on est d'accord pour divorcer. Donc vous n'aurez pas besoin, votre avocat n'aura pas besoin de plaider la faute contre l'autre. C'est-à-dire que le magistrat ne veut pas savoir pourquoi vous voulez divorcer. Je vais juste vous poser la question, est-ce que vous souhaitez divorcer? Monsieur dit oui, madame, est-ce que vous souhaitez divorcer? Si elle dit oui, moi juge, je n'ai pas à m'immiscer dans votre vie intime, dans votre vie privée, donc il n'y a pas de motif à donner. Par contre, après, on peut disserter, on peut discuter sur s'il y a des enfants, la garde des enfants, le montant de la pension alimentaire. Donc c'est vrai que ce sont les deux procédures les moins douloureuses, entre guillemets. Après, vous avez évidemment la procédure la plus douloureuse étant la procédure de divorce pour faute. Et je peux vous assurer qu'en la matière, et c'est là où parfois on se pose la question de savoir si monsieur et madame se sont peut-être un jour aimés, on est parfois dans le domaine de la crapurée absolue, c'est-à-dire que on va tout invoquer, tout et n'importe quoi, et ça en dit long encore une fois sur la nature humaine, et on leur fait comprendre justement que si vous salissez madame, si vous salissez monsieur, et je le redis, en particulier quand on a des enfants, de facto, ça laissera des traces. Et à un moment ou à un autre, les enfants, s'ils étaient en bas âge, ben, ils finiront évidemment par apprendre la vérité ou par apprendre ce qui s'est passé, soit par les parents, soit par la famille, qui est parfois pas toujours de bons conseils. Et ça peut marquer des gamins à vie, évidemment.
L'idéal, c'est de faire un contrat de mariage, finalement.
Alors,
et de prévoir tout ça avant.
Bah oui, alors, le contrat de mariage est évidemment intéressant en soi. Pourquoi ? Bah parce que le jour où vous allez divorcer, tout est prévu à l'avance. Pour autant, on a des procédures où le contrat de mariage a été formalisé au préalable. Après, c'est la nature humaine. Quand vous avez des rancœurs absolues, quand vous voulez faire mal pour faire mal. Vous savez, on a parfois des procédures de divorce qui durent et qui perdurent. Pas parce qu'on va batailler sur la garde des enfants. Bon, vous voyez, ça, on peut se mettre d'accord en règle générale assez rapidement. Mais vraiment, parfois, sur des broutilles, sur quelque chose qui a été acheté en commun, il y a souvent des litiges qui concernent des ordinateurs. C'est moi qui ai acheté l'ordinateur, pourquoi c'est madame ou pourquoi c'est monsieur qui le garde. Donc, sur des choses qui peuvent, quand on regarde ça de l'extérieur, sembler complètement futiles. Après, quand vous êtes plongé en plein à l'intérieur du litige, je peux comprendre qu'on soit aveuglé et qu'on bataille pour, en vérité, très souvent des futilités. Il y a jamais de guerre absolue, sans pitié, qui concerne les enfants. Souvent, c'est parfois hard et c'est parfois dur en la matière, mais au bout d'un moment, monsieur et madame finissent par accepter la décision. Non, on a souvent des rancœurs sans limite sur un bien matériel, sur le fait que au mariage, monsieur a fait des cadeaux à madame, j'aimerais bien les récupérer maintenant, des bijoux, des robes, donc je trouve ça...
Si c'est la bague de la grand-mère, oui.
Oui, mais non, mais ça, à la limite, on peut l'entendre, et qu'on le veuille ou non. En règle générale, madame, quand c'est un bien qui se transmet de famille en famille, mais même par fierté, donc elle restitue ça. Mais parfois, c'est des bijoux qui ont effectivement été achetés et qu'on remet à madame. Bon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où ça a été remis dans le cadre d'un mariage, sauf si vous divorcez le lendemain ou le surlendemain, mais à partir de X années de mariage, l'élégance, si
c'est acquis.
Voilà, parler d'élégance. Voudrait qu'on n'insiste pas pour récupérer ça quand même. Mais encore une fois, voilà, c'est la nature humaine, donc on a vraiment tous les tempéraments en la matière.
Bon, voilà, quand on divorce, il faut un bon avocat.
Il faut un bon avocat, et puis il faut pas forcément un avocat.
Un peu psychologue aussi.
Ce que j'allais dire, il faut surtout pas un avocat qui jette de l'huile sur le feu. Vous savez, on a parfois des dossiers qui bloquent pas parce que monsieur et madame se font une guerre absolue, parce que les conseils de monsieur et de madame, parfois, avec peut-être des arrière-pensées, hein, par définition, quand un divorce dure longtemps, et ben financièrement, ça coûte aussi beaucoup plus cher aux clients. Donc parfois, ce sont les avocats qui peuvent faire en sorte qu'un dossier est bloqué. Donc quand c'est comme ça, en tout cas, quand vous avez l'impression que le discours de l'avocat est toujours le même, je sais que c'est pas simple, mais faut pas hésiter à dialoguer entre monsieur et madame, à essayer de comprendre. Je le redis évidemment, hein, derrière un bureau, c'est facile à dire, mais ça arrive parfois que les dossiers bloquent, pas à cause de monsieur et de madame, mais
ça fait des honoraires.
Bah non, mais voilà, c'est malheureux, mais en même temps,
plus la procédure dure.
Il y a aussi cet aspect-là, même si. Très souvent, quand vous allez voir un avocat, il va vous donner un montant forfaitaire qui fait que, voilà, si ça dure un an ou si ça dure trois ans, ce sera le même montant. Mais après, il faut savoir qu'on a ce qui s'appelle des procédures d'incident. C'est-à-dire que l'avocat va vous dire, écoutez, on va revenir devant le magistrat pour ceci, pour cela. Eh ben ça coûte des sous. Donc, les avocats sont aussi parfois, c'est pas peut-être pas sympa de le dire, mais ils sont parfois aussi fautifs en la matière.
Voilà, vous pouvez appeler Maître Serran ce matin, c'est gratuit. 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le vendredi, on parle de droit avec Maître Serran, que vous interrogez au standard de Beurre FM, 01 53 48 3000. Maître Serran répond à toutes vos questions frais. Hein. En dépit du mois de Ramadan, Maître Serran a le cerveau affûté et frais.
Bien sûr. J'ai fait mon jogging ce matin de bonne heure.
C'est à quelle heure vous avez été allé courir, Maître Serran?
5h30.
D'accord, jusqu'à 5h32.
Voilà. On était ensemble.
Ah oui, c'était exactement ça. J'ai fait une fois et demie le tour du pâté de maison. Alors, on a Myriam qui est à Rouen, Maître Serran. Myriam, soyez la bienvenue sur Beurre FM. Alors, Myriam.
Allô?
Oui, Myriam, bienvenue.
Bienvenue. Bon, voilà. Moi, j'ai été victime d'une tentative de meurtre par mon mari. On s'est présenté devant le juge des affaires familiales.
Oui.
Et monsieur a refusé de divorcer.
D'accord. Quand vous parlez de tentative de meurtre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pris 40 coups, dont des coups de couteau.
D'accord. Il y a eu une procédure pénale, j'imagine, Myriam, quand même.
Oui, il y a eu une procédure pénale où il a été reconnu irresponsable.
D'accord. Reconnu quoi? Irresponsable?
Oui.
D'accord, c'est-à-dire qu'on considère que qu'il n'était pas, entre guillemets, dans son état normal à ce moment-là.
Ouais.
D'accord. Pour autant, puisque vous me dites qu'au civil, vous avez engagé une procédure de divorce, mais sur le principe, vous savez, c'est normal que lors de la première audience, ce qu'on appelle l'audience de non-conciliation, en tout cas la tentative, le magistrat va recevoir d'abord la personne qui a engagé la procédure. Donc si c'est vous, vous avez été reçu par le juge. Bon, vous avez probablement remarqué que ça va très vite. C'est-à-dire que on vous pose la question en disant, bon, madame, vous avez engagé une procédure de divorce, est-ce que vous souhaitez toujours divorcer? Bon, vous dites oui ou non,
oui,
et puis voilà.
Et on m'a demandé pourquoi.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et après, le juge vous demande, parfois il prend le temps et parfois c'est vraiment une question de principe, expliquez-moi en gros pourquoi vous souhaitez divorcer. Vous apportez votre explication, vous sortez, monsieur rentre, et tout ça
alors,
se fait.
Pour dire une chose, c'est dites-moi. Que monsieur est rentré
ouais.
avec son avocat, son assistante sociale.
Parce que j'allais vous dire, quand c'est comme ça, dans un premier temps, on rentre, mais sans l'avocat. C'est-à-dire que le juge veut voir monsieur tout seul et madame tout seul.
Non, il est rentré avec son avocat, l'assistante sociale. Il est rentré avec sa tutelle et deux infirmiers.
C'est autre chose parce que vous me parlez de tutelle. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, donc monsieur est placé sous tutelle.
Oui, maître.
Bon, alors il faut savoir que à partir du moment où vous êtes placé sous tutelle, de facto, enfin, on doit s'adresser à la personne qui exerce la tutelle et à l'intéressé. Et on lui pose la question, est-ce que vous voulez divorcer ou pas? Alors il a le droit de dire non, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, il a le droit de dire non pour autant. C'est pas parce que monsieur a dit non que le magistrat va pas prononcer le divorce. Et en soi, même si vous me dites que monsieur a été déclaré ou sera déclaré irresponsable pénalement, c'est-à-dire qu'il vous a mis des coups, et notamment des coups de couteau, et pénalement on considère qu'il n'avait pas toute sa tête, donc en gros il y est pour rien, sur un plan purement civil, évidemment que ça ne va pas interdire le juge civil de prononcer le divorce. Donc ne vous soyez pas inquiète parce que monsieur a dit non, il a le droit de dire non. Bah, il peut dire moi j'ai pas envie de divorcer.
Ça traîne, hein. Ça fait 4 ans maintenant que ça traîne.
Ah, bah alors après c'est pas forcément à cause de la justice, vous savez, quand la décision est rendue, l'ordonnance de non-conciliation, quand elle est rendue, à charge pour celui qui a engagé la procédure, bah de dire je veux continuer la procédure. Et si au-delà de trois mois ça n'a pas été fait, monsieur prend la relève. Après c'est aussi un problème de gestion du ou des avocats. Le magistrat lui fixe des dates. Alors vous voyez, je vais vous dire n'importe quoi, mais si par exemple demain on me demande à moi de développer mes arguments par écrit, de les remettre au juge le jour de l'audience qui serait par exemple fixée demain, si c'est pas fait, je peux, moi avocat, dire au juge, écoutez, j'ai encore besoin d'un délai supplémentaire. Sauf que on appelle ça une demande de renvoi. Les délais supplémentaires, c'est 3-4 mois à chaque fois. Vous voyez, c'est pas renvoyé à la semaine suivante. Donc ça dépend pas toujours du magistrat. Hein.
Alors moi, je dois vous préciser une chose. À la non-conciliation, sa tutelle a dit pourquoi vouloir divorcer monsieur alors qu'il aime toujours sa femme.
Oui, enfin, c'est pas un argument. C'est-à-dire que peut-être, j'en ai aucune idée, qu'il vous aime ou qu'il vous aime pas. Après, c'est un constat. C'est-à-dire que quand bien même il jouerait du clairon pour dire qu'il vous aime, vous êtes en train de me dire que vous avez été victime de violence et de violence plus.
Ça a été reconnu par le tribunal.
Bon.
Et il y a même en bas du procès, il y a écrit avec préméditation.
Oui, enfin bon, donc non, mais vous savez, il peut jouer du violon. Enfin, son avocat peut jouer du violon toute la journée. Et dire que monsieur vous aime toujours, les magistrats vont se baser sur des faits. Donc, selon moi, il n'y a pas. Alors, c'est évidemment terrible de ce que vous avez subi, mais selon moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce qui me surprend un peu, c'est le timing que vous me donnez. Ça me semble un peu long.
Et le 9 septembre, ça ferait exactement 5 ans.
Vous avez des enfants? Il y a des biens en commun?
Non, non.
Non ? Bon, là, comme ça, évidemment, quand on ne connaît pas le dossier, donc je ne vais pas faire le malin et dire, tiens, c'est peut-être de la responsabilité exclusive des avocats, ce ne serait pas sérieux de dire ça. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand il n'y a pas d'enfants, quand il n'y a pas de biens en commun, c'est là où on peut se dire qu'une procédure de divorce peut se terminer quand c'est long, 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 on va dire un an et demi, 2 ans, quoi. Et c'est déjà long, hein. J'en suis conscient, c'est déjà long. Mais le timing que vous me donnez me semble pas justifié.
Et là, il m'a déjà retrouvé plusieurs fois.
Retrouvé ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Parce qu'au bout d'un an, monsieur a été, excusez l'expression, remis sur le marché.
Enfin, il a purgé sa peine. Enfin,
il a purgé aucune peine.
Mais qu'est-ce que vous appelez remis sur le marché ?
Eh bien, il était en institut dans un hôpital psychiatrique.
Ah oui, mais
il est sorti, vous voulez dire.
Voilà. Mais le magistrat, dans la première décision qui a été rendue, l'ordonnance de non-conciliation, il a, j'imagine, il vous a attribué peut-être le domicile conjugal et par définition interdit à monsieur de vous approcher.
Non.
Non, il dit quoi, le juge?
Le domicile conjugal, oui. De m'approcher, non.
Alors,
et pourtant, mon avocate, quand elle est rentrée après moi la deuxième fois, elle a bien demandé.
Non, mais alors, quand un juge dit « j'attribue le domicile conjugal à madame », par définition, ça veut dire que monsieur n'a pas à y remettre les pieds. Et si monsieur vient toquer à la porte, ou si monsieur a gardé un jeu de clé et rentre au sein du domicile, vous avez évidemment la possibilité d'aller au commissariat et de déposer plainte.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il m'a retrouvée 3 fois. La troisième fois, j'étais en pleine ville. Il y avait un arrêt de bus en face. Il se mettait à l'arrêt de bus. J'appelais la police. La police arrivait. Il montait dans un bus. Et la police m'a dit, que voulez-vous qu'on fasse ?
Oui. Le message, je peux l'entendre, et c'est peut-être la pire des choses. Après, en la matière, il y a pas, j'ai pas de bonne solution, puisque juridiquement, là, en droit et en pur droit, le magistrat a fait son travail. Il vous attribue le domicile conjugal, il interdit à monsieur de venir vous embêter. Après, c'est vrai, ça relève beaucoup de la compétence des policiers en la matière qui sont plus ou moins motivés.
Les procédures d'éloignement, il faut les respecter.
Oui, il faut les respecter, mais en principe, quand il y a une procédure d'éloignement ou quand le domicile est attribué à madame et que monsieur vient faire le malin au domicile, quand on appelle la police intervient, puisqu'évidemment, il y a le non-respect d'une décision. Après, ça dépend aussi beaucoup de la motivation, entre guillemets, des policiers et parfois même de la motivation du procureur de la République.
Voilà Myriam, merci pour votre question. Direction Bourges, Mokhtar a une question pour vous, maître Serran. Bienvenue sur Beurre FM, Mokhtar.
Oui, bonjour. Bonjour maître.
Bonjour Mokhtar.
Alors, allô.
Ah oui, on vous écoute. Allez-y, Mokhtar. Maître Serran écoute votre question, Mokhtar.
Je vais expliquer mon cas, parce que je suis en train de conduire en même temps, parce que je pars au boulot. Alors mon cas, je vais expliquer mon cas rapidement. Moi, donc, ça dure longtemps. Donc, dernièrement, on s'est disputé avec madame. Donc, on a décidé de divorcer. Mais, ça fait pas longtemps, on voulait acheter une maison. Et la maison, ça appartient à sa maman. Donc, c'est un héritage. Donc, finalement, elle a fait le crédit. Et elle a mis la maison à son nom. Donc je pense que dans la maison j'ai rien du tout. Et en plus de ça, donc on a deux garçons en bas âge, donc on a décidé de divorcer. Et après, je sais pas, est-ce qu'il faut prendre un avocat, est-ce que j'ai toujours le droit à la maison, parce qu'au début j'étais avec elle dans le crédit, après elle m'a enlevé du crédit parce que le crédit il a pas encore débuté. Donc je voulais bien savoir.
D'accord, c'est-à-dire que quand vous me dites un crédit, c'est pour l'instant un projet.
Le crédit il a été déclenché.
Il a été contracté.
Mais après j'ai pas signé. Au dernier moment j'ai pas signé.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresserait dans cette maison, puisque vous me dites que
c'est un héritage en fait.
On peut considérer qu'objectivement. Si c'est un héritage, a priori cette maison ne vous intéresserait pas ni de près ni de loin, non?
Non, pas du tout. Parce qu'au début, c'était un héritage et je voulais que ce soit avec elle dans le crédit qu'on achète la maison.
Oui, bien sûr, voilà. Tout allait bien entre vous.
Mais quand vous dites que c'est un héritage, qu'elle a fait, elle.
C'est un héritage par rapport à sa maman, parce que sa maman, elle a décédé. Elle a des frères et des sœurs, donc elle a acheté les parts de tout le monde et elle a mis le crédit, elle a mis la maison à son nom.
Ouais. Mais là, sur le principe, vous considérez que c'est objectivement normal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de me dire, tiens, j'aimerais ma part là-dessus.
Comme là, on va divorcer. On avait divorcé parce que je ne pense pas qu'elle veut divorcer à l'amiable. Parce que là, elle me fait un peu la misère. Est-ce que je dois sortir de la maison? Est-ce que je dois rester?
Non, mais après, tout dépend de l'ambiance. Pourquoi est-ce qu'il est parfois conseillé de sortir de la maison? Parce que si vous me dites, écoutez, c'est électrique du matin jusqu'au soir. Il vaut peut-être mieux éviter de se fréquenter quand à chaque fois on se voit, il y a des étincelles ou il y a un orage. Parce qu'il peut, il pourrait, c'est terrible à dire, il pourrait y avoir un dérapage. Vous savez, il faut pas être foncièrement violent pour parfois être à l'origine d'un dérapage.
On se parle pas, c'est électrique. Bon, on dit pas qu'on dispute tous les jours, mais bon, c'est électrique. Au début, elle m'a dit, t'auras pas les gamins, tu vas pas les voir, t'as pas le droit. Après, finalement, elle m'a dit, si tu veux voir tes gamins, t'as le droit de les voir. Donc voilà, au jour du lendemain, à chaque fois, elle me sort des trucs.
Non, mais monsieur, à ce stade-là, à partir du moment où le juge n'a pas rendu de décision.
Non, encore, on n'est pas passé devant le juge.
Je
suis en train de me renseigner. Est-ce que on devrait d'abord passer comme ça, sans avocat, ou il faut prendre un avocat?
Non, mais de toute manière, faudra prendre un avocat. En tout cas, celui qui engage la procédure doit prendre un avocat. Alors, imaginons que madame prenne un avocat pour la première audience, ce qu'on appelle la tentative de conciliation. Vous avez le droit de venir sans avocat, c'est un choix.
D'accord.
Mais pour la suite de la procédure, la deuxième partie de la procédure, le juge d'ailleurs vous dira, monsieur, pour la deuxième partie de la procédure, il vous faut un avocat. L'avocat est obligatoire.
D'accord.
Et même conseillé.
Pour la maison, pour la maison, ça, c'est un héritage. Moi, je suis pour.
Si c'est un héritage, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y aurait pas un côté injuste, puisque c'est un héritage, il n'y a rien qui, par définition, aurait dû vous revenir. L'héritage, il revient à madame. Si vous me dites qu'au niveau crédit, rien n'a été enclenché, c'est tant mieux.
On a tout préparé.
Ouais, enfin voilà.
Tout était préparé. On s'est disputé, au dernier moment, j'ai pas signé.
Non, mais c'est la meilleure des options. C'est la meilleure des options, vous avez bien fait.
Oui, parce qu'après, ça aurait compliqué encore pire.
Ça complique la situation. Maintenant, tant que le juge ne vous a pas convoqué, les enfants, vous pouvez les voir, évidemment, autant que vous souhaitez. Il faut faire ça en bonne intelligence.
Je peux sortir de la maison, ça ne craint rien du tout.
Alors, si vous sortez du domicile, allez quand même déposer une main courante, juste pour prévenir. Vous allez au commissariat pour dire, voilà, l'ambiance est un peu électrique, donc je préfère sortir. Et vous gardez ça sous le coude et vous le remettez à votre avocat.
D'accord. J'ai bien fait d'appeler, parce que après, moi, je connais pas les procédures. C'est pour ça que j'ai préféré d'appeler pour savoir.
C'est une bonne initiative.
Ouais.
Merci, Mokhtar.
Merci, voilà. Au revoir.
Maître Serran donnera son numéro.
Bon Ramadan à vous. Hein.
Merci Maître Mokhtar. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Maître Serran, je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui peuvent vous appeler ce matin, mais qui peuvent vous appeler sur votre téléphone portable, d'ailleurs. Absolument. Que vous allez indiquer immédiatement, tout de suite.
06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, d'autres appels dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serran avec nous, et on vous retrouve tous les soirs du mois du Ramadan. Maître Serran, c'est vous qui ouvrez l'émission à l'imam à 8h, donc avec le talent qu'on vous connaît.
Ah, bon, c'est gentil de le rappeler.
Ce talent, cette plume aussi. Hein.
Oh, ça me fait plaisir.
Ouais, attendez.
Je vais revenir plus souvent.
C'est la deuxième couche qui fait mal, vous allez voir. Alors, nous avons Ahmed qui est avec nous, Maître Serran, et qui attend au 01 53 48 3000. Ahmed, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Ahmed. Oui, Ahmed, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Ahmed.
Donc, je vais être bref, je vais être rapide dans ce que je vais vous dire. Donc en 2017, j'ai pris en flagrant délit, en plein Ramadan, mon ex-compagne de tromperie adultère dans un hôtel.
Ah bah, faut mieux être bref dans ces cas-là, oui.
J'ai été, super cool, j'ai fait preuve de, j'étais super calme, j'ai fait comme si j'avais rien vu et tout, donc j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et par la suite, en septembre 2017, elle a déposé plainte contre moi, comme quoi que j'étais une personne violente. Bon, il s'est avéré avec les témoignages des nourrices et tout le monde que c'était faux. Heureusement d'ailleurs, je remercie la justice française justement de son bon travail et de son efficacité, pour la police aussi qui a pris cette affaire à cœur. Et donc moi j'ai jamais été condamné, rien du tout par rapport à toutes ces fausses histoires. Et voilà, depuis septembre 2017 à aujourd'hui, j'ai jamais revu mes enfants. Elle a pris mes enfants en otage, donc moi aujourd'hui je suis complètement en bas. Toutes les pensions alimentaires sont bloquées chez Amnesty Justice, et à l'heure actuelle, je vois pas mes enfants.
Mais là, au moment où on se parle.
Enfin, moi j'ai une question. Comment on fait pour prendre sa femme en plein grand délit, en flagrant délit, par hasard dans un hôtel? Expliquez-moi comment.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Comme les tensions étaient tendues et qu'elle n'arrêtait pas de me dire, ouais, tu me trompes. Et à un moment donné, j'ai commencé à bien réfléchir. Je me suis dit, celui qui parle souvent de ça, c'est peut-être cette personne-là qui s'amuse à ces choses-là. Donc moi, je suis chauffeur poids lourd en Ile-de-France.
D'accord.
Et justement, j'avais un chantier dans la ville pour laquelle elle travaillait, justement. Et voilà, j'ai une coupure de déjeuner. Et je me suis dit, je vais aller chercher mon ex-compagne pour déjeuner ensemble. Et là, je l'ai vue, comme elle travaille juste en face d'un hôtel. Et c'est arrivé comme ça, tout simplement.
D'accord.
Naturellement. Avec un paracadabra, on va dire.
Bien.
Les faits ont été peut-être en tête à tête reconnus par madame ou pas du tout? Ou elle a nié?
Non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. On a déposé le tout chez mon avocat. En fin de compte, on n'était pas mariés civilement, mais uniquement religieusement. Et voilà, donc on n'est pas passé par une procédure de divorce.
D'accord, oui, voilà. Évidemment, si vous étiez marié que religieusement et si vous avez des enfants, c'est devant un magistrat, alors qu'il s'appelle le juge aux affaires familiales.
Exact.
Et le juge aux affaires familiales, donc, a dû rendre une décision sur notamment l'organisation de la garde des enfants. Et vous me dites que madame ne le respecte pas, ce jugement.
Exactement. Et donc moi, j'ai demandé par rapport à cette femme-là qui avait déposé plainte contre moi avec des mensonges et tout ce qu'elle est avec. J'avais peur de prendre mes enfants à domicile et d'être avec eux. On ne sait jamais, ils tombent et tout. Même mon avocat m'a dit que ça va être super compliqué, elle est très mauvaise. Donc c'est mieux qu'on passe par un centre d'accueil pour les enfants où elle les dépose une petite heure et tu vas les visiter, excusez-moi pour le jugement, une fois ou deux dans la semaine et puis voilà.
D'accord, mais sur le principe, monsieur, est-ce que madame, à un moment ou à un autre, elle a dit au magistrat, vous étiez violent à l'égard des enfants? Est-ce qu'il y a des plaintes? Alors, est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées pour dire le père est violent à l'égard des enfants ou c'est juste les déclarations et les blablas de madame?
c'est uniquement des déclarations et des blabla de madame, et elle a déposé une plainte contre moi vis-à-vis d'elle, comme quoi que j'étais violente depuis 11 ans et demi avec elle.
D'accord, mais vous me dites qu'a priori, donc, tout ça a été démontré en disant que vous n'étiez pas violent, mais votre avocat a dû vous le dire. Après, juridiquement, oui, vous pouvez vous retourner contre madame, on appelle ça une dénonciation calomnieuse.
Exactement, mais justement, je me suis retrouvé, moi, convoqué au commissariat où on m'a remis justement un document pour me présenter devant un magistrat, mais à la maison du droit et de la justice. Mmh. Donc, une fois sur place, on m'a fait un peu rappeler les faits, que voilà, bon, c'est vrai qu'il y avait des disputes, mais pas de violence. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des mots qui ont été échangés, des noms d'oiseaux, on va dire ça comme ça en français. Et donc, ouais, je le cache pas, c'est une vérité, mais j'ai jamais touché cette personne-là physiquement. Donc, voilà, moi je lui dis, voilà, je t'ai attrapé en flagrant délit dans ce que t'as fait, je trouve ça sale de ta part avec des enfants. C'était pour faire ça et ensuite faire des enfants, ouais, en gros, bref. Et voilà, et depuis, bah, moi je vois plus mes enfants. Enfin,
d'accord, mais là,
je les ai pris en otage.
Ouais. Voilà, mais la décision de justice vous fixe bien un droit de visite, qui dit bien, il y a monsieur qui doit venir voir ses enfants.
Tout a été débouté, ah oui, le droit de justice, au
début
de l'affaire familiale, tout a été débouté, complètement. Elle a été interdiction du domicile, justement, familial. Elle a été, voilà, ils lui ont dit, madame, vous n'avez rien à faire là-bas. Vous n'allez plus
mais,
là-bas.
Alors, encore une fois, votre avocat vous l'a peut-être dit, mais à partir du moment où un magistrat fixe, dans le cadre d'un jugement, un droit de visite et d'hébergement, si ce droit n'est pas respecté par madame, c'est-à-dire vous voulez aller chercher les enfants et puis elle dit non, c'est hors de question, j'ouvre pas la porte. Bah, vous savez que vous pouvez aller déposer plainte au commissariat en prenant votre décision. Et en règle générale, le commissariat, dans un premier temps, passe un petit coup de fil à madame, mais ils peuvent même aller sur place. Tout ça a été fait ou pas?
Bah, rien n'a été fait. Enfin, contre nous, avec l'avocat, je lui avais posé la question. Donc, justement, il m'a dit de passer par cette procédure. Et justement, au commissariat, on m'a dit on ne peut pas prendre votre plainte, mais par contre, on peut prendre une main courante.
Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, monsieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une décision de justice qui est rendue, qui fixe un droit de visite et d'hébergement, celui qui ne respecte pas le droit de visite et d'hébergement viole tout simplement la loi. Donc, c'est pas une main courante. Encore une fois, la main courante, c'est juste la déclaration que vous allez faire, mais qui sera pas transmise au procureur de la République, c'est-à-dire celui qui va engager les procédures. Mais le commissariat est obligé de prendre votre plainte. C'est pas juste parce qu'il vous trouve sympa ou pas. Il est obligé.
Eh bien, malheureusement, ils ont pris qu'une main courante et depuis,
Non, mais monsieur, il y a rien, c'est terrible, monsieur, mais c'est normal s'il y a qu'une main courante. Mais dans ce cas-là, faut pas hésiter à demander à votre avocat de contacter même directement le commissariat en disant il y a mon client qui est sur place, il voulait déposer une plainte, vous prenez qu'une main courante et je vous assure que le commissariat le fera.
Mais Ahmed, vous n'avez pas vu vos enfants depuis combien de temps déjà?
Depuis le 14 septembre 2017.
Ah non, mais monsieur, le problème, c'est que, alors je suis navré, hein, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais n'importe quel magistrat ou même un procureur de la République aurait l'impression que vous y intéressez pas plus que ça. Si vous me dites que depuis 2017, il y a juste une main courante, c'est un peu inquiétant. Donc vous n'êtes pas forcément problème, bien conseillé.
Le problème, il est que, le commissariat a refusé de prendre ma plainte. Donc on avait fait un courrier au tribunal.
Non, ça marche pas comme ça. Non, monsieur, ça marche pas comme ça. Encore une fois, un commissariat ne peut pas refuser de prendre la plainte. Voilà, c'est juridiquement, c'est pas possible. Mais c'est pas possible dans quel sens? Dans le sens où si vous allez sur place et vous dites je viens déposer plainte, on vous dit que non. Et ben dans ce cas-là, à ce moment-là, appelez votre avocat, il va simplement leur rappeler la règle de droit. Le commissariat est obligé de prendre la plainte. Et c'est au procureur de la République de dire je poursuis ou je poursuis pas.
Logiquement.
Donc il faut repartir au début,
Bah oui, il faut repartir au début. Et malheureusement, monsieur, ce que vous dites ne plaide pas en votre faveur, puisque un procureur de la République pourrait vous dire monsieur, vous vous réveillez trop tard. Et en plus, vous avez un avocat. Vous voyez, à la limite, quelqu'un qui n'a pas d'avocat, on peut comprendre. Il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Mais vous avez un avocat. Donc à partir de ce moment-là, c'était à l'avocat de vous dire comment procéder et pas attendre de 2007 à 2019. Ça n'a pas de sens.
Bien, alors voilà ce qu'on pouvait vous dire à Ahmed ce matin. Maître Serran, rappelez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, merci Ahmed pour votre appel. 26e jour du mois de Ramadan. Maître Serran, vous êtes avec nous ce soir à partir de 20h. 21h48, c'est l'heure de l'ADN. Écoutez-le sur Beurre FM, puisque c'est l'imam Abdelali Mamoun qui le fait en direct. Maître Serran, on profitera de vous, hein, encore quelques jours. Hein,
si Dieu le veut.
Pour votre célèbre ouverture de l'émission à l'Olimam.
Bon, on va faire comme ça.
Voilà, je vous donne rendez-vous à 11h pour vos petites annonces sur Beurre FM.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.